Voilà, ça marche. Je suis content d'être assisté par Benjamin pour le son et puis pour l'image par Anthony. Et franchement, c'est bien. Quand j'ai appris que vous aviez voilà, la possibilité de passer un PowerPoint, je ne sais pas, on peut peut-être jouer sur les lumières pour que vous voyez mieux. Tant que j'arrive à voir mon... Ouais, ça va aller. Voilà. Ça va mieux ? Ok, voilà. Comme ça, on profite par plusieurs sens. Et c'est un... Je dis souvent, je ne prêche pas tout seul. Dans la communauté du phare qui vous salue, qui va bien, qui est en croissance, et on est heureux de partager aussi ça avec vous, eh bien, je dis toujours qu'il s'appelle Tristan, le jeune homme qui fait le rôle d'Anthony. On est deux à prêcher, voilà. Lui par l'image, parce qu'en plus, il doit suivre un peu tout ce qui se passe, donc c'est un rôle difficile, et moi par la parole. Alors, je suis heureux d'être ici. Comme vous le savez, je ne me sens jamais ici comme un visiteur, je me sens en famille. C'est différent. Alors je ne le dis pas partout. C'est pas quelque chose que... Franchement, c'est quelque chose que je dis particulièrement ici. Dans une famille, il y a des membres de la famille qui sont plus éloignés, puis il y a des membres de la famille qui sont proches. Vous êtes des membres de la famille proches, et je suis heureux d'être là. Alors, on va prier ensemble, on va remettre la parole de Dieu très brièvement devant Dieu, et en même temps, on va prier pour Evelyne, parce qu'elle était en souffrance tout à l'heure. Nous sommes, je pense, ensemble, une communauté, l'Église, qui prend soin les uns des autres, et quand un membre souffre, on souffre avec eux. Et pour lui montrer en tout cas notre soutien, on continuera à prier pour elle, et dans l'après-midi, un petit coup de fil, un petit SMS pour montrer que vous la soutenez. Voilà. Seigneur notre Dieu, on veut te prier pour Evelyne, et tu vois qu'elle était privée de continuer à partager ce culte avec nous, et nous voulons espérer, Seigneur, que cette quinte de tous s'est arrêtée. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu n'ajoutes pas à ses souffrances, elle qui a déjà été éprouvée par une opération. Nous te demandons de la relever, Seigneur. Et aussi, Seigneur, nous te demandons de, par la parole de Dieu ce matin, chacun, de réparer ce qui doit être réparé, de restaurer ce qui doit être restauré, de libérer ce qui doit être libéré, sous la conduite de l'Esprit de Dieu pour ta gloire. Amen. Alors, le thème que je partage avec vous ce matin, c'est un thème que j'avais depuis longtemps dans mon cœur. C'est très bizarre comme titre d'ailleurs, ça s'appelle « Les oubliés » ou « Les zéros de la foi ». Alors souvent on vous parle des héros de la foi, ces grands hommes, et ce matin je vais vous parler de ceux dont on ne parle jamais. Et pour introduire le sujet, je vais raconter deux petites histoires et peut-être qu'elles vous ressemblent. La première, c'est celle d'une fillette de 8 ans, qui un jour écrit à un pasteur parce qu'elle avait un problème. Son papa ne mettait pas sa photo dans son portefeuille. Elle demandait à ce pasteur, « Comment est-ce que je dois faire ? Mon papa, il met la photo de ma sœur qui a 15 ans, il met la photo de mon petit frère qui est plus jeune. Moi, je suis rentré de l'école, j'avais ma photo scolaire et en format pour mettre dans le portefeuille de papa et papa a pris la photo et l'a mise dans le tiroir. » Et on aurait dit que cette petite fille n'était pas assez bonne pour son papa. Une autre histoire similaire, elle se passe dans les années 20 aux USA. Il y avait ce qu'on appelait le train des orphelins. Et qu'est-ce que c'était le train des orphelins ? C'était un train qui partait de New York vers les contrées agricoles rurales du Middle West américain. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait le train des orphelins ? C'est parce que ce train, je dirais, contenait des enfants dont les New Yorkais ne voulaient pas. Et pour les transférer à l'intérieur du pays, quelque part un peu comme s'ils étaient cachés. Et bien que les familles du Middle West accueillaient ces enfants avec amour et étaient vraiment heureux de les avoir, il restait quelque chose dans le cœur de ces enfants qui se sentaient comme des oubliés. Et dans une émission TV, bien des années plus tard, une dame a raconté combien c'était douloureux pour elle alors qu'elle jouait dehors avec des autres petites filles, il y a les mamans qui sortaient et qui rappelaient leurs enfants. En réprimandant leurs enfants, en leur disant de ne pas jouer avec ces gibiers de potence. C'est quelque chose qui marque dans l'enfance, ce sentiment d'être oublié. Alors peut-être, je dirais vous n'avez pas écrit à un responsable chrétien à l'âge de 8 ans, peut-être que vous avez encore vos deux parents, vous n'êtes pas orphelin. C'est des histoires qui semblent un peu extrêmes, mais ça éveille quand même en vous un malaise, un sentiment d'injustice. Et si vous avez des frères et des sœurs, vous avez peut-être même connu ce sentiment d'être oublié. Parce que dans une fratrie, parfois, l'amour n'est pas partagé de la même manière. Vous savez, on a parlé de l'existence d'une 9e planète. Voilà. 9e planète dans le système solaire. C'est incroyable. Donc, on croyait tout savoir du système solaire. On se rend compte qu'il y a une 9e planète. C'est la planète oubliée. Mais comment est-ce qu'on a pu faire ça ? Mais c'est un peu pareil. Dans une famille, il peut y avoir des oubliés. Je me souviens d'Orient, je me souviens aussi de la compétition parfois qui est permanente au sein des enfants. Et c'est une anecdote avec Dorian quand il était au magasin. Vous voyez, nous les hommes, on a une conception particulière des grands magasins. On s'arrange pour que ça aille le plus vite possible. Hein. C'est pas quelque chose dans lequel on prend énormément de plaisir. Donc on va aider. Donc si l'épouse part dans un rayon, nous on se propose d'aller dans l'autre pour essayer de ramener rapidement les victuailles. Et à un moment donné, Brigitte était partie dans un rayon et moi je pars dans un rayon et Dorian était assis encore sortait de l'âge bébé, de l'enfant, il était jeune enfant, et il est assis dans le caddie. Et puis on est là tous les deux dans un rayon un peu plus, on entend quelqu'un qui crie « au secours, on m'abandonne !» Alors il y a tout le monde qui panique, les gens viennent, nous, Dorian. Et voilà, c'était sa manière de montrer, voilà, je ne suis pas un oublié. Alors, je ne sais pas s'il pensait vraiment qu'il abandonnait, mais c'est sûr, on avait attiré l'attention pour lui. On était très gênés. Parce qu'après, on se demande, les gens, ils sont très méfiants maintenant. Hein, donc, voilà. Alors, quelqu'un a dit qu'on ne choisit pas sa famille. Mais vous, l'impression que vous avez peut-être, c'est que votre famille ne vous a pas choisi non plus. Il y a un dicton populaire qui dit ceci, « Fais-toi des amis, les ennemis, le ventre de ta mère les donnera. » Et parfois, malgré tous les efforts des parents, un amour partagé entre les enfants, il y a ce sentiment d'être oublié, on n'est pas à sa place. Et bien, si ce n'est pas dans votre famille, c'est dans votre travail. Vous semblez ne pas compter pour grand-chose dans le travail. Les promotions, vous les voyez passer pour les autres. Les augmentations aussi, c'est pour les autres. Vous ne vous sentez pas l'âme de ce qu'on sait d'être un quarterback. Vous savez, le quarterback, c'est celui dans le football américain sur lequel toute l'attention se pose. C'est le pilier central, c'est le héros de l'école ou d'université, ou même d'une cheerleader. Vous voyez, c'est celle qui conduit un peu les supportrices au bord du terrain. Vous êtes plutôt celui qu'on oublie. Celui qui, dans un match, le coach ne va jamais chercher, qui est toujours au bout du banc, et qui rentre jamais sur le terrain. Et quand vous, enfin, vous suscitez l'attention des autres, vous vous rendez compte que c'est pour votre argent ou pour vos connaissances en informatique. Peut-être qu'on vient vous voir. Ou peut-être c'est pour votre voiture. Et parfois même dans l'Église, dans la famille de Dieu, le sentiment d'être oublié existe. Vous voyez des gens autour de vous qui ont des dons, des talents, il y en a qui parlent, il y en a qui sont mis en valeur. Voilà, il y en a. Et vous, vous avez l'impression que quand on parle devant vous des héros de la foi, vous vous sentez comme un zéro de la foi. Alors c'est un sentiment que j'ai déjà ressenti, hein. Un zéro de la foi, celui dont on ne parle pas. Et pendant des années, on encaisse cette insignifiance, ce rejet, l'oubli de ceux qui nous entourent, de nos cercles d'amis, et c'est là en nous, et c'est prêt à exploser, et parfois ça explose. Mal. Dans les histoires humaines et aussi dans la Bible, on trouve des conséquences désastreuses de la réaction violente des oubliés. Le premier meurtre a eu lieu entre deux frères dont l'un pensait que son frère était le préféré de Dieu. Il pensait cela à tort, Caïn et Abel, je ne vous rappelle pas l'histoire. Il a conçu une haine farouche pour son frère, il pensait qu'il était le chouchou. Et puis il y a aussi les deux fils du roi David, Absalom, qui va tuer Amnon, pour venger sa sœur. Lutte entre frères. L'histoire de la fondation de Rome, dans l'Antiquité, elle est basée sur deux jumeaux qui ont été recueillis par une louve, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Romulus a tué Rémus. C'était deux frères jumeaux, mais l'un a tué l'autre. Et moi, je suis jumeau, hein, et même si parfois j'ai eu des envies de meurtre, jamais je ne suis passé à l'acte. Voilà, peut-être je serais passé à l'acte parfois sur les coachs de basket de certains de mes enfants. Certaines années, parfois, j'avais... Mais bon, c'est une autre histoire. La saga du Seigneur des Anneaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au moins les films ou lu les livres. Elle trouve son commencement lorsque Sméagol tue son cousin pour s'emparer de l'anneau qui va le transformer en un être torturé, détruit. L'autre avait quelque chose qu'il n'avait pas et il le voulait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, si j'ai fait cette assez longue introduction, c'est pas pour vous bouleverser, mais parce que j'ai été réellement fasciné dans la parole de Dieu par le destin de deux oubliés. Alors, avec un parcours quasi anonyme. Vous savez, c'est deux personnes dont je n'ai jamais entendu une prédication dessus. Donc, je suis heureux de réparer un peu cette injustice, mais moi-même, j'ai dû chercher. On trouve l'histoire du premier dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Ésaü. Et on trouve des bribes d'histoire de l'autre dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Jude. Alors, a priori, ok, ça, voyez un peu qui c'est, mais on va détailler. Quand on veut brosser un portrait biblique remarquable, un modèle à suivre, quand on veut choisir quelqu'un sur lequel parler à l'école du dimanche, au groupe de jeunes, on ne va pas parler d'Ésaü. On va parler de Jacob, qui est devenu Israël, il a eu le nom de la nation. On ne va pas parler de Jude. Il y a son frère Jésus quand même, Jacques, qui est devenu le responsable de l'église de Jérusalem. Ésaü et Jude sont des oubliés. Et c'est vrai que le début de leur histoire, franchement, ça commence mal. Ils ont un très très mauvais et très long départ et mauvais départ dans la vie. Alors je raconte l'histoire d'Ésaü très brièvement, mais en vous expliquant que ça démarrait mal et que c'était presque normal qu'ils soient des oubliés. Ésaü, ça commence fort. À sa naissance, il sort le premier, c'est des jumeaux, il sort le premier du ventre de sa maman, mais son frère lui accroche déjà le talon. Son frère l'attrape en disant « Attention, je vais te dépasser. » Et puis, dans la Bible, qui est très transparente sur nos faiblesses, sur ce que nous sommes, même lorsque nous ratons des choses, sur nos échecs, on voit que les parents d'Ésaü et de Jacob, ils montrent un amour partagé. Isaac, le papa, il préfère Ésaü. Ésaü, c'est le gars balèze, viril, c'est un jeune homme costaud, c'est lui peut-être, voilà, le footballeur américain de la bande. C'est un chasseur et son père aime ça, et il le préfère. Par contre, Rebecca, la maman, elle préfère Jacob. Jacob, c'est l'être sensible, délicat, un peu, qui doit déjà un peu roublard. Et on dirait aujourd'hui que Jacob vivait dans les jupes de sa mère. Il faut parfois paraphraser la Bible, pas enjoliver les choses. Dans leur jeunesse, il y a un événement important qui se produit. Ésaü va agir avec beaucoup de légèreté. Il est l'aîné et ce droit d'aîné, c'est quelque chose d'important. Il avait droit à une double part de l'héritage paternel. C'est Deutéronome 21, 15 à 17 qui le dit. Il va vendre ce droit d'aîné, simplement contre un repas. Il a faim, il rentre d'une chasse et puis il vend ce droit d'aîné. C'était un acte d'autant plus, inconscient. Qu'il y avait des bénédictions inouïes, rien de moins que le salut de l'humanité, la venue du Sauveur Jésus-Christ, qui était attaché au droit d'aînesse qu'avait Ésaü. Et il va multiplier les erreurs, il va épouser des femmes étrangères, ça ne va pas plaire à ses parents. Et puis, comme ça ne suffit pas, au moment où son père devient vieux, et donc son père pourrait rattraper les choses et bénir Ésaü, qui était quand même l'aîné, voilà Jacob qui, avec l'aide de sa maman, ils font toute une ruse, vous connaissez l'histoire, et hop, ils se déguisent avec des peaux d'animaux, et hop, ils volent la bénédiction. Ésaü se voit voler sa bénédiction de fils aîné. Et pour Ésaü, il va rester un embryon de bénédiction. C'est intéressant de lire le texte. Un embryon. Il dit, mais enfin, il dit à son père, mais tu vas me bénir. Mais non, j'ai déjà tout donné à ton frère. Jacob, Isaac n'a plus rien à donner à Ésaü. Mais enfin, tu n'as rien pour moi, qu'il lui dit. Et Isaac va dire, il va dire, tu vas être dominé par ton frère. Quand il demande une bénédiction, ça commence mal, vous voyez un peu. Mais si, voilà, tu prends ton indépendance, voilà, tu arriveras à t'en sortir bien dans la vie. C'est ça. Essayez de vous imaginer l'état d'esprit d'Ésaü après que son frère lui ait volé sa bénédiction. Est-ce qu'il est paisible? Tout va bien. La Bible nous parle de cela. Genèse 27, 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin, je tuerai Jacob, mon frère. Et la seule solution pour Jacob, qui sent bien que ça va arriver, il prend la fuite loin d'Ésaü. Et c'est ce qu'il va faire pendant 15 ans, c'est-à-dire il va fuir pendant 15 ans. Et le texte biblique, tout d'un coup, sort, Ésaü disparaît des radars. Et le texte biblique se concentre sur celui qui va recevoir la bénédiction, qui est dans le plan de Dieu. Et on voit comment Dieu va changer aussi le cœur de Jacob, parce que le cœur de Jacob avait besoin d'être changé. C'est un truqueur, ce qu'il a fait. Ok, il a obtenu la bénédiction, mais d'une manière malhonnête. Et Dieu va briser ce jeune homme par la souffrance. Mais d'Ésaü, on n'en parle plus. On n'en parle plus jusqu'à la fin de la Genèse. Et donc, on va reparler de lui tout à l'heure. On parle de Jude, un oublié du Nouveau Testament. Et alors, il naît forcément dans une famille très nombreuse, chez un charpentier qu'on connaît bien, puisque c'est Joseph. Et ses frères se nomment Jésus, c'est l'aîné. Et puis il y a Jacques, il y a Joseph, il y a Simon. C'est des noms qui nous sont donnés dans la Bible. Puis il y a des sœurs aussi. Et ça, on n'a pas leur nom. Et Jude, forcément, il est un peu perdu au milieu de toute cette fratrie. Il devait certainement être au bout de la liste des garçons. Et avec de tels frères, on l'a dit quand même, Jésus, il devait être impressionnant dès le départ. Nous, on connaît que sa vie à partir de 30 ans, mais waouh, ses frères, ils ont vécu avec lui. Peut-être pas beaucoup, ils ne ressentaient pas beaucoup de place pour lui dans sa famille. Alors, à titre individuel, dans l'évangile, on ne peut pas dire qu'il soit fait remarquer. Hein, c'est surtout avec ses frères. Dans les trois évangiles, Matthieu 12, Marc 3, Luc 8, ils sont un peu excédés, les frères de Jésus, par la popularité de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avec Marie et ils vont trouver Jésus et ils exigent, écoute, on est là dehors, on exige que tu sortes. Waouh! Ils essayent de le soumettre à leur autorité. Et dans Marc 3, on va même dire que Jude et ses frères traitèrent Jésus de fou. Ils le traitent de fou. Ça ne se passait pas super bien pour Jude. Autre part, dans Jean 7, Jude et ses frères, pas lui seul, ils veulent se rendre maître de l'agenda de Jésus. Ils disent, va en Judée, ne reste pas en Galilée. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Tu n'as plus rien à montrer ici. Pars. Et le texte précise quelque chose d'incroyable. Ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Et sur ces hauts faits peu glorieux, voilà notre ami Jude qui devient lui aussi un oublié, un zéro de la foi, jusque-là. Et on va l'abandonner un petit peu aussi. Alors on va faire un arrêt sur image pour développer un point théologique important aussi, mais peut-être une question qui est dérangeante parmi les milieux spirituels, peut-être une question aussi que certains se posent, certaines personnes non chrétiennes, profanes, quand ils lisent la Bible, l'impression que Dieu a des chouchous. Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu a des chouchous? Alors si on fait une lecture qui n'est pas contextuelle, qui est trop rapide de la Bible, on pourrait donner à penser que Dieu a des chouchous. Jacob va supplanter Ésaü de manière injuste. Ça choque un peu notre sens humain, la justice. David est un roi selon le cœur de Dieu, mais il va remplacer le premier roi d'Israël, Saül. Le peuple d'Israël lui-même, lors de la conquête du pays de Canaan, il va s'emparer d'un pays qui appartient à d'autres et il ne fait pas de quartier. Et puis il y a surtout cette primauté, cette élection d'Israël qui a commencé, qui continue, qui est développée par l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 9, avec cette terrible phrase, une phrase qui boue, que je rappelle d'ailleurs souvent à mon frère jumeau, et qui dit ceci, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Bien sûr, c'est lui l'aîné, c'est pour ça que je lui rappelle cette phrase. Donc, mais quand même, ça nous choque un peu, on a un sens de la justice, on croit que c'est... Ça vient de Dieu, mais c'est un sens humain de la justice. Parce que notre sens de la justice, il regarde les choses de notre point de vue. Et on trouve peut-être que c'est choquant d'entendre une telle affirmation, ça nous paraît révoltant. Mais en fait, ce qui nous paraît révoltant, c'est toute inégalité qui ne tourne pas en notre faveur. Et c'est pour ça qu'on est révolté. Comment Dieu pourrait-il avoir des préférences? On déteste les préférences. En fait, je dirais les enfants ont horreur des chouchous qui ne sont pas eux. Quand on a le chouchou, on ne se plaint pas. Vous avez déjà vu quelqu'un se plaindre de la position privilégiée qu'il a dans le cœur des parents ou à l'école? Alors s'il y a bien une idée fausse ancrée dans l'esprit des hommes et parfois dans celui des lecteurs de la Bible, c'est que Dieu a des chouchous. C'est une idée fausse. Par contre, s'il y a bien un fil conducteur chez de nombreux auteurs bibliques dans l'Ancien Testament, Moïse, le roi Josaphat, Paul, Pierre, Jacques, tout cela est répété que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de chouchou. Romains 2, 11, 1 Timothée 2, 4, 6. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes, et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus a offert sa vie en rançon pour tous. Pour tous. Pas d'oublier. Pas d'oublier. Pas de zéro de la foi. Simplement, Dieu a un plan souverain. Un plan précis, un plan persévérant, un plan inébranlable. Et ce plan englobe le temps, l'espace et l'éternité. Et pour réaliser son plan, oui, Dieu va choisir des personnes. Mais ça n'en fait pas des chouchous. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle l'élection au sens biblique. Je suis reconnaissant à Richard Doulière, qui est un maître, qu'on connaît bien sûr, qui fait partie un peu de cette communauté, parce qu'il y a de la famille, qui est un maître pour ce qu'il a écrit sur l'élection. Il dit, en gros, j'essaie de résumer, que l'élection, c'est un acte souverain de Dieu qui, au départ, on pense que ça va s'opposer au libre arbitre de l'homme, mais il n'en est rien. En fait, Richard explique l'élection et il dit que si on est élu, il faut d'abord se poser la question de savoir qui est élu, première question. Et la deuxième question, pourquoi, donc pour quelle raison, en vue de quoi, il y aurait des chouchous, des élus. Il n'y a pas de chouchous, pardon, des élus. Alors, qui est élu? Eh bien, il y a une constante. Chaque fois qu'on regarde le qui, chaque fois qu'on regarde ceux qui sont élus, je dirais, dans la parole de Dieu, des hommes, des nations, on remarque que ce sont des gens faibles, insignifiants. Vous savez, David était le dernier de sa famille. On avait même oublié de l'appeler. Ah oui, il y en a encore un, là, il gardait hein, les troupeaux. Israël, Dieu rappelle que c'est le moindre des peuples. Le moindre des peuples. Des gens méprisés, des gens méprisables, comme Paul, un persécuteur, un assassin. En fait, Dieu va choisir des oubliés, des héros de la foi. Tout cela pour réaliser son plan. Dans quel but? Eh bien, vous savez, si on croit que l'élection, nous sommes choisis par Dieu en vue de croire, nous nous trompons. L'élection, ce n'est pas pour que nous croyions. Dieu ne nous choisit pas comme des gens privilégiés pour que nous puissions avoir accès au salut. Dieu nous choisit pour réaliser quelque chose dans son plan. Dans son plan. Et dans Romains 9, 17, il est dit, Dieu dit au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Dieu choisit qui il veut pour la mission qu'il veut. Et en voyant que Dieu choisit aussi Pharaon, on se rend compte que les qualités de l'élu n'y sont pour rien. Ce n'était pas vraiment le plus grand supporter de Dieu et du peuple d'Israël. Dieu choisit parfois des gens contre leur gré, comme Pharaon. Il choisit toujours quelqu'un pour une mission particulière. Comme Jonas, il y en a qui refusent. Oui, Jonas qui est arrivé, oh, ok, tu me choisis, mais moi je ne veux pas. Hop, il s'en va. Vous connaissez l'histoire. Il va quand même y arriver. Donc vous comprenez bien ce que c'est l'élection. D'abord, qui est choisi? Les personnes insignifiantes. Et pourquoi? Simplement pour réaliser le projet de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le salut, la croyance du salut. Et je vais terminer ce point sur l'élection par une histoire. Il se passe dans la guerre de sécession et au début de la guerre de sécession, un partisan du président Lincoln a affirmé son espoir au président que Dieu était du côté des nordistes. Et Lincoln lui répondit, « Je sais que le Seigneur est toujours du côté de la justice. Mon souci constant et ma prière, c'est que moi-même et la nation tout entière, nous soyons du côté de Dieu. Nous soyons du côté. » Ça renverse ces choses. La vraie question n'est pas de quel côté est Dieu, mais sommes-nous du côté de Dieu? Sommes-nous du côté de Dieu? Alors on revient à nos amis, Ésaü et Jude, on les avait aussi oubliés, on les retrouve. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Bon, jusqu'ici, ce que vous pouvez lire, c'est ce que vous aviez lu dans la Bible. Et ce que je dis maintenant, c'est ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. L'histoire d'Ésaü, elle ne s'est pas arrêtée de Jude, elle s'est pas arrêtée sur les lamentables échecs que j'ai énoncés devant vous. Même pas sous une vengeance amère. Ils ne sont pas entrés dans l'oubli avec le déshonneur. Et je dis ceci, votre histoire à vous, chacun de vous, votre histoire à vous n'est pas finie. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, quels que soient les géants que vous combattez, quelles que soient les montagnes qu'il vous reste encore à franchir, le meilleur arrive, même parfois à la fin de la vie, comme avec ces hommes. Alors, Ésaü. On le retrouve en fait avec Jacob, qui va à sa rencontre, après quelques longues années, je dirais, passées dans un pays lointain où il a acquis une épouse, une famille et puis des troupeaux, et ça a duré longtemps, Jacob rentre au pays avec le trouillomètre à zéro. Si vous lisez la parole de Dieu, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas autrement. Il a peur, ça se passe pas bien du tout. Il redoute par-dessus tout la vengeance de son frère. Il sait qu'il est son frère. Il sait que quand son frère a dit quelque chose, il va le faire. Il est peut-être moins fin, moins délicat, mais il va tenir parole. Il est terriblement stressé. Le texte nous dit qu'il est tellement stressé qu'il va s'isoler dans un endroit seul. Jacob resta seul. Et cet endroit s'appelle Péniel. Rappelez-vous quelque chose d'extraordinaire. Il est tellement stressé qu'il va rencontrer quelqu'un et se battre avec lui. Il a tellement d'adrénaline avec le stress qu'il ne se rend même pas compte que c'est avec Dieu qu'il se bat. Il faut voir dans l'état et la force qu'il a pour se battre avec Dieu, parce que le texte d'une presse qu'il prend le dessus, c'est un peu enfin, étonnant, c'est une manière en tout cas de montrer. On peut vraiment voir son niveau d'adrénaline et son niveau de stress à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, ben, il ne peut plus reculer. Jacob, il faut qu'il aille. Je vais passer tout le monde devant lui, l'histoire. C'est pas très courageux. D'abord, mes troupeaux, puis après, sa femme, tu ne veux pas y aller, l'autre femme, tu ne veux pas y aller, les enfants, etc. Quoi. Et puis, il se dit, il arrive le dernier. Courageux, il a un vrai rempart pour sa famille. Hein. Et puis, ils sont face à face. Et on peut s'imaginer que ça peut être un peu comme j'avais mis une image, voilà, un peu comme ça, vous voyez. Hein. Il était une fois dans l'Ouest. C'est comme ça que Jacob voit la scène. Et il se passe une chose incroyable. Je lis le texte Genèse 33, verset 4. Il est dit, « Ésaü courut à sa rencontre, il le prit dans ses bras, il se jeta à son cou et il l'embrassa. » Tous deux se mettent à pleurer. Vous avez vu ce texte? Ça ne vous rappelle rien dans le Nouveau Testament? Il y a une histoire similaire dans Luc 15, quand quelqu'un rentre à la rencontre et qui s'attend à ce que ça ne se passe pas bien, il y a un autre qui court exactement la même chose. Si vous lisez Genèse 33, vous pensez au fils prodigue. C'est exactement ce qui s'est passé quand le fils perdu rentre, son père court, se jette à son cou et l'embrasse et il pleure. Et dans la parabole, c'est Dieu qui est le père et dans notre histoire, c'est Ésaü. Ésaü aurait eu légitimement des raisons de se venger, au moins de faire des reproches à son frère. Il n'en est rien. Il se comporte avec amour. Je ne sais pas si moi, pendant longtemps, je n'ai jamais noté cette histoire comme ça. Cette manière de ce changement. Alors le texte nous laisse quand même entendre que Jacob, toujours très courageux, toujours anticipant le pire, hein, il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer quand mon père mourra? Est-ce qu'il ne va pas changer d'avis et se venger? Vous voyez, un peu très... Et en fait, même pas. Même pas, nous dit le texte. Lorsque Isaac, le père, meurt à 180 ans, ça fait rêver, ses fils sont là, ils sont paisibles, ils sont unis. Genèse 35, 29, Isaac rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres, âgés et comblés de jours, et ses fils, Ésaü et Jacob, l'ensevelirent. On voit une paix dans cette simple phrase. Rien, pas d'hostilité dans le cœur d'Ésaü. Le temps n'a pas entamé le changement dans le cœur d'Ésaü. Lui, l'oublier, le délaisser, il a laissé la grâce et le pardon remplir sa vie et chasser l'amertume. La question c'est, mais comment? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais on quitte Ésaü, prêt à tuer son frère, on le rencontre, qui se jette au cou de son frère et qui l'embrasse. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. La seule certitude, c'est que Dieu aime autant Ésaü que Jacob et que personne n'est oublié de lui. Alors Jude, eh bien à la fin de l'histoire, elle est tout aussi intéressante. D'abord, il y a un petit passage dans les Actes, Actes 1, 14, qui montre déjà qu'il se passe quelque chose dans le cœur de Jude par rapport à tout ce qu'on a vu dans les évangiles. C'est après la résurrection de Jésus. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et donc, on sent quelque chose déjà, un fifrelin de changement dans le cœur de Jude. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est ça qui était le déclencheur de la réflexion. Je suis allé après chercher Ésaü, mais d'abord j'avais trouvé Jude. Je lis un jour l'épître de Jude. Et puis je vois cette lettre, un café de Jude, un des écrivains inspirés de la Bible. Ce n'est pas celui qu'on lit tous les jours, mais quand même. Mais c'est surtout ce qu'il écrit dans sa présentation qui m'a inspiré. Et je vous le partage. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Rappelez-vous, Jude était le frère de Jésus. Ce même homme qui a dit, mais il est fou. Hein, ce même homme qui ne croyait pas en lui, il écrit cela. Il n'a pas écrit Jude, frère de Jésus-Christ, pour donner une sorte d'autorité à ce qui allait suivre. Il écrit frère de Jacques et serviteur de Jésus-Christ. Et le Jude qui contestait l'autorité de Jésus, il a disparu. Et quand on lit l'épître, si vous voulez une clé au moins pour l'épître, parce que parfois on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux trouver dans cette épître d'un seul chapitre, eh bien je vous la donne, 5 fois, dans le même chapitre, il va dire que Jésus-Christ est Seigneur. 5 fois, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le seul chapitre de la Bible où on voit le plus l'affirmation que Jésus-Christ est Seigneur. Et au verset 4, il va dire, Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Quel changement? Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation? On n'en sait rien. Enfin, quelque part, on n'a pas n'est pas écrit, mais il y a un réel changement. C'est une œuvre de Dieu. Seul Dieu peut ôter la haine du cœur de l'homme et la remplacer par l'amour. Et c'est Martin Luther King qui disait que l'amour est la seule force qui peut transformer un ennemi en ami. Et c'est pour ça que nous rappelons dimanche après dimanche qu'à la croix, Jésus est mort par amour pour ses ennemis qui lui criaient leur haine. Entre le Jude de l'Évangile et celui des Actes, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu au moins cet événement de la croix, un grand événement qui a démontré tout ce que Jésus a enduré pour Jude et pour nous. Alors on arrive à la fin, et je vais citer, je dirais encore Richard Doulière, hein, qui m'inspire par la grandeur de son humilité et de son service. Il dit ceci: « Je suis persuadé que nous faisons tous » — il faut entendre cette parole — « nous faisons tous l'objet d'une élection plus ou moins particulière, voire unique. Mais avons-nous le souci de la découvrir et de la faire réellement nôtre ?» Et Richard, je veux dire, ne crée pas quelque chose de nouveau. Simplement, il paraphrase ce texte de la Bible dans Éphésiens 2. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et puis la suite surtout, ce que nous sommes, même les oubliés, même les héros de la foi, ce que nous sommes, enfin, ce que nous pensons nous-mêmes, ce n'est pas l'image de Dieu, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Une vie riche d'œuvres bonnes. Est-ce que vous êtes déjà entré dans cette vie riche d'œuvres bonnes que Dieu a préparée d'avance afin que nous les accomplissions ? Et dans 1 Pierre 2, il dit « Mais vous êtes une race élue », etc. Il continue « Communauté de rois prêtres, une nation sainte ». On entend, oh là là, arrêtez, c'est trop. Quand on entend ça, parfois, un peuple que Dieu a libéré, mais le texte dit « Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière ». Et quand on lit la parole de Dieu dans son ensemble, et quand on lit notamment ce chapitre magistral de Hébreux 11, qu'on a appelé la galerie des héros de la foi, on commence à entrer dans le projet de Dieu. Parce qu'on se rend compte que dans cette galerie des héros de la foi, il y a la présence de certains qui sont comme des oubliés dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 20, il y a un verset qui a attiré mon attention. « Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob, il aurait pu s'arrêter là, et Ésaü en vue de l'avenir. » Et dans la Genèse, on voit que pour Ésaü, je dirais, quand il cherche la bénédiction, il n'y a qu'un embryon de bénédiction. Et quand on se replace dans Hébreux 11, le texte ne fait pas de différence. « Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. » Ce n'est donc pas une bénédiction au rabais, c'est une bénédiction en vue de l'avenir. Et on peut voir quelle était cette bénédiction. C'est vrai, pour Ésaü, l'oublier, Dieu l'a élu en lui donnant une patrie. Il est devenu aussi un peuple nombreux, nombreuses descendances. Dieu l'a choisi pour montrer à son frère ce qu'est le pardon. Est-ce que vous croyez que Jacob savait, avant que son frère ne se jette à son cou et l'embrasse, ce qu'était le pardon ? Lui qui était le roublard, il avait dû composer avec un beau-père qui était encore plus roublard que lui. Et c'était la guéguerre permanente à celui qui trouvera le moyen truandé l'autre. Donc son système de valeurs, il reposait sur « tu veux gagner, truande l'autre ». Il ne pensait pas une seule seconde qu'il allait apprendre le pardon par Ésaü. Vous vous rendez compte, c'est Ésaü qui a appris le pardon à Jacob. Et Jude l'oubliait, eh bien Dieu l'a élu pour qu'il devienne un écrivain de la Bible, Dieu l'a aussi élu pour qu'il apprenne l'humilité et qu'il la partage avec nous. Alors oui, on est une race élue, comme dit le texte, mais c'est pour qu'on puisse annoncer les merveilles de Dieu, pour qu'on puisse les annoncer aussi à tous les oubliés. Il n'y a pas que dans l'Église qu'on peut se sentir oublié, mais tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Dieu, en quelque sorte, considérons-les comme des oubliés qu'il faut aller chercher, faire sortir de l'ombre et partager notre amour. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, mais c'est pour remplir ce monde oublié des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et on n'a pas assez de toute une vie pour ça. Alors on va conclure, d'abord par une citation. Alors c'est une citation d'un mormon. Alors je ne suis pas devenu mormon, je vous le dis, mais quand, je dirais, des gens, même des profanes ou d'autres que des chrétiens, disent des choses bonnes et justes, je les prends et je les partage. Et cet homme du nom de Dieter Uchtdorf a dit ceci, « Nous n'avons pas besoin de franchir la ligne d'arrivée pour recevoir les bénédictions de Dieu. » Oui, ça c'est en anglais, donc je l'ai traduit. Pas besoin. Et on va voir une petite vidéo qui illustre bien mieux que je ne pourrais le faire le fait qu'on n'a pas besoin de franchir la ligne d'arrivée pour voir que Dieu agit en notre faveur. Alors on va regarder ça, c'est l'histoire de Derek Redmond. Il n'y a pas de son, donc je peux... Voilà. C'est en demi-finale aux Jeux de Barcelone, aux Jeux Olympiques, et Derek Redmond est un des coureurs, c'est un Anglais. Il avait un bon temps, donc voilà, il est là et c'est un des favoris de la course. Et il va se passer quelque chose de... La pire chose qui peut se passer, voilà, quand vous êtes au sommet de votre course, l'endroit dont vous avez rêvé toute votre vie, l'événement dont vous avez rêvé toute votre vie, voilà, il y a un claquage, il y a une blessure, il est obligé de s'arrêter, et la caméra même se focalise sur lui pendant un temps. Et puis la course continue, il y a le vainqueur qui se qualifie, etc., enfin, pour la qualification. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire, voilà, je ne m'arrête pas là. Tout d'un coup, il était sur le devant de la scène, il est devenu un oublié. Et puis d'abord, il décide que non, il ne sera pas un oublié. C'est la première chose qui se passe. Puis il va se passer autre chose. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive, là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ou qui bouscule, qui vient avec lui. Vous savez qui est cet homme à côté de lui? C'est son père. C'est son père. Et il voit la souffrance de son fils. Le père, c'est Dieu. Le père, c'est Dieu qui prend soin. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir franchi la ligne d'arrivée pour que Dieu prenne soin de nous. C'est plein d'émotions, il dit toute sa souffrance. Alors il y en a d'autres qui vont venir, vous allez voir. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Mais Dieu, on peut lui dire, mais t'as rien à faire ici. Mais Dieu dit, non, je reste. Hop, disparaît. Je resterai à côté. Il ne sera pas un oublié. Et ils vont passer la ligne tous les deux. Voilà, encore on essaye de l'en empêcher, etc. Et ça dérange, parce que c'est... Voilà, c'est if. Les autres sont passés, ils devraient rester oubliés. Mais il ne veut pas. Et Dieu ne veut pas non plus. Encore un carré, vous voyez. Jusqu'au moment, hein, ils vont y arriver. Mais je crois qu'il n'y serait jamais arrivé sans l'aide de son papa, parce qu'un claquage, vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Ils vont y arriver. Alors là, la caméra a bien compris. Et voilà, ils ont franchi la ligne d'arrivée. Et on termine avec cette histoire pour nous rappeler que Dieu est tout le temps à nos côtés. Dieu est toujours à nos côtés. Il est dans les gradins. Et quand, je dirais, il n'y a pas besoin qu'il court à notre place, Dieu ne va pas courir à notre place. Donc on va courir, mais Dieu nous encourage dans les gradins. Et quand ça se passe mal, il est capable de sortir des gradins. Il nous aide à faire ce que les Américains appellent de « extra mile ». Chemin supplémentaire, ce qui reste à parcourir. Il nous porte, il nous console, il franchit la ligne d'arrivée. Et vous savez, on peut très bien ressasser sur son sort d'oublier. Oh, je suis le dernier de ma famille, oh, je suis ceci, oh, celui-là, il est mieux en vue. C'est une perte de temps. Ce que nous avons à retenir, c'est que nous sommes tous élus pour un projet qui plaît à Dieu. Et je termine juste en disant cela, une autre image. Vous vous rappelez l'histoire du début, cette petite fille qui nous avait tant émus en écrivant à ce pasteur, une fille de 8 ans, parce que son papa n'avait pas sa photo dans son portefeuille. Et quelqu'un a dit ceci, si Dieu avait une maison ici-bas, votre photo serait accrochée au mur. Votre photo serait accrochée au mur. Ésaü et Jude n'y penseraient jamais passer le casting des héros de la foi, et pourtant c'est bien ce qu'ils sont devenus. J'espère que vous penserez à eux quand vous lirez la Bible. Et c'est bien ce que vous aide, si vous acceptez aussi que Dieu laisse modeler votre cœur. On va prier ensemble. Seigneur, merci de nous avoir tous élus pour un projet qui te plaît. Nous avoir tous élus pour une vie riche d'œuvres bonnes, Seigneur, que tu as préparée d'avance pour nous. Seigneur, tu nous rappelles que même si le début de notre vie a été relativement gâché, il y a toujours un temps, Seigneur, où tu permets la réparation, un temps de grâce, Seigneur, un temps de restauration un temps de changement dans nos vies qui est toujours possible, même après de longues années comme Ésaü, où la vengeance s'était certainement installée dans son cœur. Et merci de nous rappeler par l'histoire de ces personnes que aucun d'entre nous, Seigneur, n'est oublié, que tu prends soin de chacun. Mais en même temps, Seigneur, tu ne nous caresses pas dans le sens du poil en disant « Oh, mon pauvre petit oublié, tu sais, je pense à toi, etc. » Non, tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne sommes pas, en fait, et que nous avons tous quelque chose à vivre pour toi. Et Seigneur, que nous pouvons tous, Seigneur, annoncer les merveilles de Dieu, partager cela autour de nous, chercher les oubliés, les vrais oubliés, ceux qui sont perdus sans Dieu. Seigneur, que tu nous fortifies par ta parole. Amen.